Cette assemblée, pour moi, elle est très intéressante parce que c'est une assemblée qui ne porte pas sur tel ou tel point plus particulier, mais c'est une assemblée un peu de synthèse, ou plus exactement, c'est une assemblée où on fait le point de la situation œcuménique dans sa totalité, dans sa globalité, c'est-à-dire dans la diversité des relations et des dialogues qu'on a aussi bien avec les églises orthodoxes, les églises orientales, les différentes formes du protestantisme ou l'anglicanisme.
Cette assemblée se tient sur le thème vers une nouvelle étape du dialogue œcuménique. Comment définiriez-vous l'étape actuelle?
D'abord, nous constatons qu'il y a tout un chemin très important qui a été fait, de connaissances mutuelles, d'écoute, et plus que cela aussi, enfin, de sympathie, d'amitié. Donc, tout l'œcuménisme ne se réduit pas uniquement au dialogue officiel. Il y a tout ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi toute la connaissance que les responsables d'église peuvent avoir les uns des autres. Et on l'a vu à propos de l'anglicanisme, par exemple, avec ce problème un peu délicat d'anglican qui ne se retrouve pas dans les positions de l'Église anglicane et qui sont venus frapper à la porte de l'Église catholique. Bon, heureusement qu'il y a eu ce capital d'amitié, de relation entre le pape et l'archevêque de Canterbury pour que on ne prenne pas ces questions comme une espèce de provocation, mais au contraire qu'on essaye de chercher ensemble une solution à ces problèmes.
Alors justement, quelles sont aujourd'hui les relations avec l'anglicanisme et notamment depuis la publication de la Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus?
Je crois que les relations restent bonnes. Le dialogue officiel avec l'Église anglicane, avec l'archevêque de Canterbury se poursuit. On sent manifestement que pour l'archevêque de Canterbury, ce n'est pas un casus belli dans les relations, mais on essaie de porter ensemble. Ça, c'est très anglais. Chez nous, tout de suite, des faits de ce type auraient une dimension idéologique. On se battrait là-dessus. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques et essaient de voir quelles solutions pratiques on peut trouver pour régler des problèmes qui se posent. Alors, ceci dit, si vous voulez, je pense que notre conseil, qui fait ce point très large sur la situation de l'œcuménisme aujourd'hui, à la fois prend acte de tous les progrès, mais aussi est confronté, me semble-t-il, aujourd'hui à un double défi, qui n'est pas du même type suivant qu'on parle des églises orthodoxes et suivant qu'on parle des églises protestantes. Au niveau des églises orthodoxes, on sent qu'il y a un peu comme j'allais dire, une certaine distance entre la position d'un certain nombre d'évêques très présents dans les relations œcuméniques et puis une partie de leur opinion publique. Je pense en Russie, vous avez aussi toute une opinion publique où le mot œcuménique signifie européen, occidental, décadent. Ils ont peur qu'à travers tout ça, ce soit l'évolution du monde occidental, avec ce que ça peut avoir, j'allais dire, comme évolution des mœurs, qui s'introduisent dans l'Église. Et donc, un mouvement aussi qui peut être très nationaliste et qui se méfierait de toutes les influences qui risqueraient de nuire à leur Église. Et donc on sent qu'un certain nombre de responsables orthodoxes, eh bien, sont obligés de composer aussi dans le dialogue œcuménique avec cette opinion publique.
Donc un décalage entre le sommet et la base et une éducation finalement à cette culture de l'œcuménisme qu'il faudrait avoir, qu'il faut promouvoir.
Tout à fait. Vis-à-vis donc des églises protestantes, aujourd'hui c'est un autre type de difficulté qui apparaît, c'est sur la finalité du dialogue œcuménique. Qu'est-ce qu'on cherche? Les pionniers de l'œcuménisme ont exprimé de façon très claire que ce qui était cherché, c'était l'unité visible de l'Église. Et on sent aujourd'hui qu'il y a dans un certain nombre d'églises protestantes un peu une autre vision, qu'ils appellent eux-mêmes la diversité réconciliée. C'est-à-dire, disons, ben, on a à prendre acte qu'aujourd'hui, nous sommes des églises différentes, avec des théologies différentes, parfois même opposées. Ne cherchons pas forcément le dénominateur commun. Acceptons simplement de nous reconnaître comme des frères aimés par Jésus-Christ, appelés à témoigner de la foi. C'est peut-être un défi trop lourd à relever que celui de marcher vers une unité visible. Voilà. Alors ça remet en question, évidemment, le travail œcuménique, parce que si c'est simplement, j'allais dire, de s'accepter différent tel qu'on est aujourd'hui et de coexister pacifiquement les uns à côté des autres, on est quand même loin de ce qui a été l'ambition œcuménique des pionniers, mais aussi ce qui me paraît être, je veux dire, l'appel que le Christ nous fait de donner véritablement le signe, comme un don de Dieu, de l'unité qui passe par une réelle communion.
C'est un tableau finalement assez pessimiste, ou en tout cas réaliste, que vous dressez.
Oui, c'est-à-dire que nous avons voulu analyser le fait que pourquoi, malgré beaucoup de progrès, toute une marche que nous avons faite, nous rencontrions une certaine difficulté aussi pour progresser d'un pas plus allègre. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons pointé ces deux difficultés. Or, je crois que ces deux difficultés, à mon avis, il faut les prendre en compte. Bon, il ne faut pas les majorer non plus. Et puis, c'est peut-être là où le travail œcuménique doit se poursuivre. Je crois que nous avons aussi à développer un des points soulignés ici, c'est l'importance de l'œcuménisme spirituel. Finalement, dans ce travail de l'unité, ce n'est pas simplement un travail, j'allais dire, de type technique ou purement théologique ou simplement d'organisation. C'est aussi une conversion des cœurs, une conversion des esprits, un accueil de l'autre. Et cet accueil de l'autre, finalement, il passe toujours à un moment ou à un autre par la conversion évangélique. Il y a toujours à se risquer pour pouvoir accueillir l'autre. Et c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme spirituel. Et je crois de plus en plus à l'importance aussi de cette forme de l'œcuménisme dans la prière et dans la lecture aussi de la parole de Dieu comme celle qui nous, à la fois nous invite à l'unité, nous prépare à travailler pour l'unité.